Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'écouter RDWA sur le 107.5 FM et sur internet www.rdwa.fr. Je suis avec une partie de l'équipe de Vercors Escapade. Bonjour Fabrice, bonjour Sébastien.
Bonjour Baptiste.
Fabrice, président fondateur de Vercors Escapade, une association qui, je pense, devrait être quand même bien connue dans ce DIWA. Mais en tout cas, on va nous en profiter pour apprendre ce que vous faites. Et puis Sébastien, tu travailles aussi pour cette association, une association d'accompagnateurs en moyenne montagne. Par quoi commence-t-on, Fabrice ? Une présentation peut-être de ce projet au départ,
oui,
de cette association
maintenant ? Oui, si tu veux, on peut expliquer comment Vercors Escapade est né. Moi, je suis accompagnateur depuis peut-être 30 ans. J'ai pas mal roulé ma bosse pour essentiellement Alibert, qui est un gros tour opérateur de la randonnée, pour lequel j'ai travaillé beaucoup à l'étranger. Et puis, j'ai toujours été passionné par le DIWA, que j'ai découvert au départ par la grimpe. Et quand est arrivé le moment d'avoir des enfants, de s'installer, eh bien, je me suis dit, pourquoi pas essayer de développer une petite agence de randonnée. Donc, j'ai commencé tout seul, en partenariat avec quelques hébergeurs. J'ai pris un agrément tourisme qui me permettait de vendre des séjours en tout compris. Et puis, au fur et à mesure des rencontres, j'ai constitué une petite équipe de collègues avec accompagnateurs en montagne aussi, avec lesquels je m'entendais bien. Et puis, on a un petit peu étoffé notre offre. On l'a proposé à différents tour opérateurs qui nous revendent. Ça, c'est pour une partie, on va dire, séjour. Et d'autre part, on a proposé aussi des sorties à la journée en lien avec le réseau d'offices de tourisme du DIWA. Voilà comment ça a commencé et pris de l'ampleur, si j'ose dire, parce qu'on reste vraiment une toute petite agence, au cours des années.
Avec un système associatif.
Donc, c'est sur la base, c'est une association Vercors Escapade, tout à fait.
Ouais. Non, parce qu'on s'attend à ce que les agences, là, tu nous as parlé de tour opérateur et tout ça, on est dans de l'entreprise un petit peu. Donc, quelle est la gestion de cette association ?
Eh bien, donc, moi, je suis président de l'association qui a son agrément tourisme. Mais après, chacun de nous, accompagnateurs, reste travailleur indépendant et facture à la structure. Une structure donc associative, mais à but lucratif. Voilà.
Et cette clientèle, il faut donc aller la chercher.
Alors là-dessus, pour les séjours, il faut aller la chercher, on va dire, loin, c'est-à-dire dans l'ensemble de la France, voire même de l'Europe. Et là, on s'appuie sur des relais, des agences qui nous revendent, mais aussi on essaye de trouver nos clients en direct, donc par un site internet, une brochure, en faisant quelques salons de la randonnée. Et après, pour ce qui est de la clientèle locale, on va dire, surtout saisonnière, essentiellement l'été, eh bien là, on fait un travail en réseau avec les offices de tourisme, avec des campings et différents hébergeurs partenaires.
Est-ce qu'on peut faire un petit peu le tour aussi de ce que vous proposez, du coup ? Là,
oui,
par exemple, il y a ce superbe catalogue.
Notre petite brochure.
Brochure, voilà, pour ce que tu appelais la partie séjour. Mm-hmm. Et puis après, avec Sébastien qui est là, on va se concentrer sur une autre type d'activité que vous proposez aussi avec Vercors Escapade. Fabrice.
Donc, il y a...
Quand on parle d'accompagnateur en moyenne montagne, c'est donc des packs de randonnée où il y a toujours au moins l'un de vous. Et
tout
vous avez, c'est un peu d'ailleurs l'objet du diplôme d'accompagnateur de moyenne montagne, toujours choisi plus ou moins une spécialité
oui.
qui peut s'en ressentir dans les propositions de séjour.
Oui, exactement. choisi en fonction de nos, de ce qu'on aime en fait. Hein. Donc il va y avoir des collègues plus branchés géologie, d'autres botaniques, d'autres connaissances du patrimoine. En fait, c'est un métier très très vaste en termes de connaissances. Chacun de nous ne peut pas couvrir la totalité des champs d'expérience. Donc on va dire qu'on se complète. Et en ce qui concerne donc ce qu'on propose, comme tu le disais, la majorité des propositions qu'on a, ce sont des séjours accompagnés où l'un de nous intervient, reçoit le groupe à l'accueil, et puis ça peut être sous la forme de week-end ou de semaine. Et donc l'accompagnateur passe l'ensemble du séjour avec son petit groupe. Il a à la fois comme mission, on va dire, un passeur d'informations. Il est à la fois un passeur d'informations, mais en même temps, il est un petit peu le garant de la bonne cohésion du groupe. C'est lui aussi... il y a un aspect psychologique important dans notre métier. C'est un peu nous qui faisons le dénominateur commun du groupe et qui arrivons à donner... un rythme de marche, à concilier les différentes aspirations des clients. Donc voilà, cet aspect accompagné, on va dire que c'est à peu près 60% de notre activité, déclinée sous forme de week-end, sous forme de séjour, la plupart du temps en itinérance.
Il y a une partie logistique aussi, et peut-être, et sécuritaire.
Bien sûr, on est garant de la sécurité. Et puis, il y a toujours, un logisticien qui transporte les bagages d'un hébergement à l'autre. On a des partenariats avec les hébergeurs locaux. Parfois, il y a même des hébergements où on ne nous propose pas la demi-pension et où on doit faire les repas nous-mêmes. Enfin, voilà, c'est un travail... à la fois de passeur d'informations, un travail de logistique effectivement importante.
Et si je puis me permettre d'intervenir, il y a aussi une partie de l'offre qui concerne des séjours liberté où les gens prennent juste la logistique. Il n'y a pas d'accompagnateur.
Ce qui, du coup, vous fait moins bosser, vous ?
Nous fait moins bosser, on va dire, sur le terrain. Mais, comment dire ?
Vous fournissez un topo ?
Tout à fait. C'est une manière de valoriser notre expérience, nos connaissances de la région et du coup d'attirer une certaine clientèle qui n'aurait pas forcément besoin, enfin qui n'éprouve pas le besoin d'être accompagnée. Hein. Mm-hmm. Donc ce sont par exemple quelques copains ou un couple qui ont le projet de faire un séjour sur le Vercors ou sur le Diois, qui n'ont pas envie d'être accompagnés, donc qui sont contents de se retrouver entre eux, mais qui n'ont pas forcément le temps, ni l'envie ou l'énergie de se pencher eux-mêmes sur leur logistique. Donc du coup, on leur fournit un topo de leur itinéraire, une carte avec l'itinéraire surligné, on leur transfère leur bagage de chaque hébergement au suivant, on leur fait leur réservation, voilà. Et puis eux, ils s'embarquent ensuite. Une fois qu'on a un petit peu validé le fait qu'ils en soient capables, hein, puisque ils sont du coup responsables de leur itinéraire, mais quand même sous notre responsabilité. Donc il y a une histoire de validation un petit peu de leur niveau et de ce qu'ils sont capables de faire.
C'est ce qui fait que d'ailleurs des fois maintenant en montagne on voit des gens très très peu équipés. Enfin, bien équipé, je veux dire, pour marcher, etc., mais avec absolument pas de gros sacs, en train de faire des courses qui sont normalement où il faudrait qu'on soit un peu,
oui, tout
un
à
peu
fait.
Plus chargé.
Oui, tout à fait. Du coup, on peut regretter ça, il y a moins d'engagement, mais en même temps, ça donne accès à plus de personnes, on va dire.
Donc ça permet une ouverture, bien sûr.
Ça permet une ouverture à plus de personnes.
Alors, la brochure, évidemment, est riche de tout un tas de photos. Comment vous avez choisi les petits topos là, que vous nous proposez ? C'est pour plutôt la magie du paysage ou alors, la difficulté, le niveau des courses qui sont proposées ?
On va dire, c'est la magie du paysage, c'est... la ressource en hébergement possible, hein, ça c'est important. Et puis aussi, on va dire, les aléas des partenariats, des rencontres qui font qu'on a envie de travailler avec tel ou tel hébergeur.
Bon, et puis on voit différentes propositions de type âne, hein,
voilà.
Évidemment,
alors,
la rando avec
ça, c'est
les
aussi une partie importante de notre activité. Dans l'équipe, on est trois accompagnateurs qui possédons des ânes et on les met à la disposition de la structure. Alors, c'est très varié, notre offre. Il y a des gens qui se sentent capables de partir tout seuls avec des ânes, auquel cas on leur loue simplement nos ânes et puis on les conseille quand même en termes d'itinéraire. Et il y a des gens qui ont envie de partir de nouveau sur le concept liberté, c'est-à-dire de ne pas être accompagné, mais qui ont besoin de notre aide pour la structuration de l'itinéraire. Et puis, il y a des tas de personnes qui ont besoin de notre accompagnement. Et c'est vrai que l'âne est vraiment un animal formidable, on va dire, pour créer le lien dans un groupe et aussi, bien sûr, pour pousser les enfants à marcher, quoi.
C'est une bonne carotte pour faire marcher les enfants.
C'est une bonne carotte, exactement. Ouais,
et donc
pour faire marcher
ça avance bien, alors, un âne, contrairement à tous.
Oui, alors, l'âne, comme on dit qu'il est têtu, c'est vrai. Mais c'est pas ça, il est plutôt déterminé, il réfléchit, mais il n'est pas impulsif, on va dire moins impulsif que le cheval, si on peut risquer une comparaison, mais...
Ou la mule qu'on voit souvent aussi proposée par
voilà,
des accompagnateurs de la montagne.
Alors la mule est très bien aussi pour le portage, mais forcément beaucoup plus grande, hein, elle peut porter plus, c'est l'avantage, mais... Pas, avec le public enfant,
jeune,
on va dire, le jeune public, ça le fait moins parce qu'il y a forcément moins de relations. Mmh. Voilà. Donc là, on va dire, l'avantage de la mule, elle porte plus, hein, elle permet plus d'autonomie, mais par contre, elle est plus difficilement maniable à des gens non avertis, quoi. Je veux dire, la mule, il faut vraiment qu'il y ait un accompagnateur.
Fabrice, une dernière chose par rapport à ton historique tout à l'heure de création de Vercors Escapade. Tu es venu ici par l'escalade. Est-ce que ces accompagnateurs de moyenne montagne que vous êtes cumulent peut-être d'autres BE et du coup, est-ce qu'il y a des liens comme ça? Vous faites des propositions qui vont au-delà de la randonnée?
Alors non, très peu. Nous, on essaye de se limiter à la randonnée. D'une part parce que il y a suffisamment d'autres structures dans le DIWA qui proposent de l'escalade, du canyon, etc. Et que quelque part, on ne souhaite pas, se marcher sur les pieds, quoi, les uns des autres. On préfère, quand dans un séjour, on a besoin, on va dire, d'un moniteur de canyon, par exemple, ou d'escalade, faire appel à ces structures partenaires. Plutôt que nous-mêmes de voilà, mais on l'exclut pas non plus, hein, je veux dire, si voilà,
si ça devait se faire
on a la capacité à vendre d'autres choses que de la randonnée. Ouais. Ouais,
en escalade notamment, il y a des fois on doit faire des marches de presque 2h30 pour atteindre de superbes spots, hein, donc on peut allier les deux, la rando et l'escalade.
Ouais,
je pensais à ça. Sébastien.
Ben, pour compléter, par contre, on essaye de se positionner sur le domaine de l'éducation à l'environnement. Donc, c'est pas une compétence technique par rapport à des pratiques sportives. Mais par contre, au niveau de la connaissance, échanger nos compétences de connaissance du milieu et des compétences de sensibilisation à l'environnement. Et donc là, par contre, sur ce domaine, on est membre du réseau de Romois d'éducation à l'environnement et on participe à des projets où on intervient sur des classes scolaires.
Bah, appuyons encore un petit peu cette thématique là. Donc vous avez, c'était à peine cité tout à l'heure, mais à la fois des connaissances géologiques évidemment, la faune, la flore, la botanique. Quelles sont les spécialités que vous nous proposez?
Bah c'est très vaste, hein. On est tous un peu des naturalistes, un peu généralistes, avec des niveaux de compétences différents suivant les thématiques. Mais effectivement, on est amené à répondre à des questions et à compléter nos compétences en fonction des questions qui nous sont posées. Et ces questions sont très très complexes, enfin très très variées, pardon. On peut être amené à parler de certaines plantes et de leur sensibilité. On peut être parlé de certains animaux, en particulier. On fait des sorties autour du vautour, du castor. Et donc là, il y a tout un discours autour de l'animal, mais aussi de l'habitat de l'animal, de là où il vit et de la sensibilité de cet animal par rapport à son environnement. Donc on amène forcément dans notre... De par le fait qu'on utilise un milieu, on est forcément amené à réfléchir ça de manière un peu transdisciplinaire. Et donc, même si on a un niveau de compétence plus marqué dans certaines disciplines, on est quand même amené à avoir un regard et une ouverture d'esprit assez généraliste.
Et sur la question du patrimoine aussi, évidemment, vous traversez quand même des endroits qui ont été marqués par l'histoire. Et il faut, comme tout bon guide, peut-être...
tout à fait, avoir des connaissances et puis être capable de les expliciter, de les transmettre à notre public.
Vercors Escapade, un contact, Fabrice Appert, tu es avec nous. On donnera tout un tas de coordonnées après. On va se concentrer un petit peu sur toi, Sébastien Lantôme. Parce que dans un autre temps, vous proposez avec Vercors Escapade aussi des sorties plus thématiques et plus, on va dire, saisonnières.
Et ponctuelles.
Et ponctuelles que ces grands séjours dont on a tiré à peu près le portrait juste avant. Et là, en plus, c'est l'hiver, un bel hiver d'ailleurs. La fin de la brochure termine par quelques séjours rando, hein, en raquette notamment. Mais là, on va faire un focus, alors Sébastien, sur ces vacances d'hiver 2018, où deux propositions sont faites.
Alors trois en tout, mais effectivement deux pour aller marcher sur l'eau, enfin marcher sur l'eau gelée, aller marcher en raquette sur la neige. Une qui vise de rencontrer un peu la faune et la neige, donc ça s'appelle « À pas de loup ». On va s'intéresser un peu à tout ce qui est indice de présence de la vie animale en hiver. Et puis s'amuser à faire un petit jeu d'igloo, enfin voir un peu les différentes activités qui rendent la pratique de la raquette ludique. Ça sera le jeudi, les jeudis 15 et 22 février. Dans un premier temps, et puis peut-être après aussi nous contacter pour plus d'informations. Et ensuite le vendredi, une sortie qui s'appelle le Paradis Blanc, donc là qui est plus dédiée à
une sortie un peu contemplative. On va aller se promener en forêt pour voir des ambiances forestières. On va se raconter des petites histoires. Et puis aussi, suivant la météo, le but est d'arriver sur un promontoire et d'avoir une vue un peu plus large sur le paysage et comprendre un peu l'histoire du paysage du Diwa. Voilà. Et ensuite, donc
ça, ce sera les 16 et 23 février. Juste voilà. Une petite pause sur celui du jeudi. On a l'impression que c'est un programme plutôt tourné pour les jeunes enfants.
Ouais, je pense que c'est un peu l'idée au départ. Ouais, c'est de permettre aux parents de trouver une activité à partager avec leurs enfants. Donc c'est pas les enfants ne sont pas susceptibles de venir seuls, mais je pense que c'est permettre une rencontre avec l'activité raquette et aussi peut-être une rencontre entre les parents et les enfants à travers cette activité.
Est-ce que tu nous livrerais où ça se passe, cette recherche à Pas de Loup ?
Évidemment, donc principalement les départs, je les envisage au départ du plateau de Beurre et puis donc dans la forêt qui permet de remonter après sur le départ des hauts plateaux, en haut du téléski des Écondus pour ceux qui connaissent la station, en passant par la cabane de l'ours. Donc la première effectivement reste plutôt en forêt et donc s'arrête la cabane de l'ours. Et la deuxième vise à rejoindre la ligne de crête. Mais après ça peut être modifié en fonction des conditions météo, des conditions de neige. Donc voilà, on envisage principalement de partir du plateau de Beurre et de partir sur les secteurs qui sont aux alentours. Mais on peut être aussi susceptible d'aller sur Chironne et d'aller sur des secteurs plus de l'autre côté du col de Rousset.
Merci pour ces infos. Donc, les jeudis 15 et 22 février pour À Pas de Loup et le Paradis Blanc vendredi 16 et 23 février. Donc, c'est l'après-midi hein. À 13h30, c'est au plateau de Beurre.
Voilà, alors il y a un rendez-vous possible à 13h sur 10 voilà. Pour monter ensemble et après le rendez-vous à 13h30 au plateau de Beurre.
Une autre proposition. Alors là, autour justement d'une faune bien présente dans notre secteur et dans le Vercors particulièrement.
Le vautour, oui, particulièrement le vautour fauve, mais on a la chance de pouvoir rencontrer les quatre principaux vautours que sont le vautour fauve, le vautour moine, le gypaète et en saison estivale le percnoptère. Alors on a la chance d'avoir une ressource très intéressante à Chamaloc puisque depuis une vingtaine d'années, même peut-être un peu plus, on doit être à 22 ans, il me semble, en 96 que ça a été mis en place. J'espère que les spécialistes me contrediront pas.
Sinon, tirez-vous dans les pattes. Allez.
C'est ça. Donc on a un endroit où les vautours sont nourris régulièrement par des agents du parc qui ont une convention avec les éleveurs locaux qui les appellent. Donc il y a trois relèves par semaine. Le lundi, le mercredi et le vendredi. Et donc, ils sont appelés, les agents du parc responsables de cette tournée, la veille ou la matinée. Et ensuite, donc, ils vont récupérer les animaux qui sont décédés sur cette période-là. Et ils les amènent sur une place, sur un charnier, pardon, au-dessus de Chamaloc. Et donc, moi, je suis en relation avec la personne qui va déposer cette bidoche. Et je suis à même de réguler un peu le parcours de façon à ce qu'on arrive à proximité tout en gardant évidemment la distance de sécurité pour ne pas gêner ces animaux, pour les voir arriver, pour les voir aller manger et puis aussi pour les voir repartir. Donc ça permet d'avoir une vision un peu globale, de les voir en vol, de voir un peu leur stratégie pour aller repérer de la nourriture, comment... au moment où en fait ils sont habitués, ils voient la voiture, donc c'est assez spectaculaire, parce qu'au moment où la voiture arrive, on voit il n'y avait rien, puis d'un coup on voit des centaines, hein. Enfin, j'en ai compté jusqu'à 200 une fois, de vautours qui débarquent, qui se posent aux alentours, donc on se retrouve avec des arbres qui étaient, il n'y avait rien dedans, et puis des arbres qui sont remplis de vautours, et puis après ils repartent, donc il y a vraiment deux temps qui sont très intéressants et qui nous permettent de voir les animaux de façon assez proche.
Voilà, et le décollage notamment, c'est quelque chose d'assez étonnant. Ce spot de nourriture est placé très haut dans la falaise.
Il est placé en tout cas de manière assez favorable par rapport à certains vents dominants. Donc ils peuvent, s'il n'y a pas de thermique, ils peuvent profiter de l'aspect dynamique du vent qui vient frôler la falaise. Et puis ils ont quand même... Voilà, il y a une petite centaine de mètres qui leur permet de prendre un peu d'élan et d'aller chercher un peu plus loin des zones favorables. Le site est globalement assez bien pensé pour pouvoir voler une majorité du temps dans l'année, mais il y a des fois où ils peuvent pas décoller, donc ils restent tranquillement digérés sur place. On peut les voir, ils sont posés dans les arbres. Donc le parc a mis en place un lieu d'interprétation. Donc quand on passe sur la route de Chamaloc, là sur la gauche, pour les gens qui connaissent cette route qu'on pratique en ce moment pour aller skier au col de Roussé. Et donc il y a une mise à disposition d'une lunette, il y a des panneaux d'explication, donc là c'est très intéressant. Et donc moi je pars de là et ça permet voilà, de compléter un peu l'information qui est fournie par le parc en faisant un petit parcours et en allant voir à d'autres points de vue l'ensemble de l'arrivée et du départ de ces vautours.
Alors quand même on fait une randonnée hein, finalement sur cette sortie.
Bien sûr, ouais, il y a une petite randonnée, c'est une heure de marche, donc il y a 4 km avec deux poses vraiment identifiées pour se poser avec une lunette et regarder les vautours au moment où ils arrivent ou au moment où ils repartent en fonction du déroulé. Et puis après on se balade, donc on discute, on présente un peu la nature autour et puis le rôle, voilà, le rôle écologique du vautour, pourquoi on a... À un moment donné, pourquoi le vautour a été massacré, parce qu'il était méchant, parce que c'était un gros oiseau et qu'on n'aime pas trop tout ce qui est trop gros et puis tout ce qu'on n'a pas du mal à comprendre. Et puis après les avoir bien massacrés, on s'est dit mais peut-être qu'ils avaient une raison d'être là. Il y en a d'autres qui sont arrivés qui ont dit mais en fait on se retrouve avec plein d'animaux à devoir apporter à l'écarissage, il y a tout un protocole, c'est cher. Et donc il y a certaines personnalités qui ont vraiment milité au départ, qui ont dû aller rencontrer les agriculteurs, sensibiliser pour casser cette image un peu ancestrale du gros oiseau pas beau, et qui ont permis de changer ces représentations et de faire en sorte que les agriculteurs deviennent vraiment partie prenante du maintien des vautours dans la région. Et ils y trouvent vraiment un avantage, ils y trouvent un avantage ponctuel puisque lorsque les animaux sont à l'étable, il y a quelqu'un qui vient les chercher et qui les amène aux vautours. Donc il y a une participation financière, mais une participation financière qui est quand même moindre par rapport au coût qu'aurait un écarissage normal. Et puis du fait de maintenir des populations de vautours dans la région, bah, quand les animaux sont en estive et qu'il y a un animal qui meurt pour raison naturelle en estive...
Ça se fait tout seul.
Ça se fait tout seul. Il y a des places identifiées. Alors les agriculteurs, là, les amènent par contre, cette fois-ci, sur des places identifiées. Et donc là, du coup, le vautour vient et c'est parce qu'il est là, parce qu'on l'habitue à être là.
Entre autres, hein, et la faune classique qui n'est pas en estive, c'est pareil, elle est nettoyée de la même manière. En se baladant parfois justement en montagne, on peut trouver des belles carcasses propres, bien nettoyées. Voilà. Et d'ailleurs, on voit que c'était un bon boulot du parc de réintroduire notamment le gypaète pour que les eaux disparaissent complètement. Cette faune, c'est aussi une belle manne pour votre activité. Enfin, on imagine que voilà, cette observation-là, notamment, on n'a pas trop parlé des castors, mais qui aussi sont en train de se réimplanter quand même massivement dans le secteur, tout d'un coup on a des espèces particulières qui sont recherchées quand même pour leur côté.
C'est vrai qu'on est vraiment très gâtés hein, dans le Diwa.
Bien sûr. Ouais.
Alors c'est le loup bientôt. Hein.
Le loup, ouais, c'est intéressant de mettre les pieds dans le plat du débat du loup, mais pour prolonger sur cette histoire de vautours, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une quasi-certitude lorsqu'on va, du fait de ce partenariat avec l'agent du parc, une quasi-certitude de dire on va aller voir cet animal et pendant la sortie on va pouvoir le voir. C'est plus compliqué pour des sorties où on va mettre comme thème la découverte du castor. On sait qu'il est là, on trouve des indices de présence de cet animal, on se promène au bord de la rivière et on trouve sa hutte.
On voit
trouve,
sa maison, voilà.
Voilà, on trouve ses réfectoires, les zones où il se nourrit. On a parfois la chance de voir des empreintes. Par contre, l'animal est beaucoup plus compliqué à voir, ça demande un protocole d'approche.
C'est nocturne.
C'est crépusculaire, donc ouais. Il sort au moment du début de la nuit. Et donc... Et il est très, très timide, cet animal. Il ne se laisse pas observer comme ça si facilement. Donc, soit on est en train de marcher, en train de discuter, et du coup, on n'a pratiquement pas de chance de voir l'animal. Soit il faut être vraiment en poste, s'être mis là deux heures avant la tombée du nuit et s'être fait un peu oublier pour avoir la chance de le voir. Donc, c'est vrai que c'est des sorties qui sont un peu plus compliquées à animer, les sorties castor. Si on veut avoir la certitude de voir l'animal, il faut presque pas trop bouger. Et si on veut faire plutôt une randonnée, une balade qui soit un petit peu intéressante, et ben du coup, on est presque sûr qu'on verra pas l'animal.
C'est ou l'un ou l'autre, ouais. Bien, tout ça pour conclure sur cette balade, le vol des vautours, vol des tours. C'est les lundis 12 et 19 février. On parle donc des vacances d'hiver 2018 avec Vercors Escapade. Trois sorties, le lundi, le jeudi ou le vendredi. Faut s'inscrire bientôt, là, hein, finalement.
Ben parce voilà, les inscriptions sont ouvertes.
Ah, bien, très bien.
J'ai déjà des demandes pour le vol du vautour du 12, d'ailleurs.
Très bien. Eh ben, on s'inscrit où et comment?
Alors, vous pouvez m'appeler au 06 62 87 63 10. On peut me contacter par mail. Alors, c'est sébastien.lantheume, L-A-N-T-H-E-A-U-M-E, @vercors-6escapade.com.
Et un site internet, vercors-escapade.com, sur lequel on peut s'inscrire également?
Il n'y a pas
non,
de formulaire d'inscription
sur
le site.
On n'a pas d'inscription sur le site pour les sorties journées. Ça se fait directement avec l'accompagnateur. Ce serait un peu compliqué sinon, parce qu'on est dépendant de la météo, on est dépendant d'annulations tardives. Voilà. Donc on préfère que ce soit géré directement avec l'accompagnateur.
Voilà, l'occasion de rappeler que les accompagnateurs sont travailleurs indépendants et que donc voilà, on profite de la structure peut-être sur sa
tout
partie
à fait,
communication,
mais chacun exactement, fait son... chacun fait sa part de travail, tout à fait.
Et sur ce site, on peut quand même réserver ses séjours?
Alors bien sûr, on peut réserver et s'inscrire sur le site en ligne, un site d'ailleurs qu'on est en train de refaire. On aura un beau, j'espère, nouveau site ce printemps.
Est-ce qu'on a tout dit?
Tu crois?
Bon, je pense qu'il y aura encore beaucoup de choses à dire.
Il y aura encore, ouais, on espère revenir.
Et bah, avec plaisir.
Ok.
Un petit rendez-vous avec Vercors Escapade sur cette antenne. Merci Fabrice Appert, merci Sébastien Lantheume. À quand vous voulez donc.
Eh bah, ben avec grand plaisir, merci à toi.
Grand merci Baptiste.
Interview.
Okay, the bird.